fin d'émission. Alors nous sommes à Troyes, nous sommes venus à votre rencontre puisque vous aviez une réunion publique prévue ici ce soir avant que l'on apprenne que François Fillon vienne aussi à Troyes aujourd'hui pour commencer ce qu'il appelle le premier jour de sa deuxième campagne électorale puisqu'il estime que depuis hier une nouvelle campagne a commencé. Quel est votre regard à vous, à Lutte Ouvrière, sur cette affaire Fillon? Qu'est-ce qui vous choque dans tout ça?
C'est sans aucun doute le décalage entre le discours et le positionnement de François Fillon, hein, cet homme exemplaire, celui qui prêche la rigueur, qui est comptable du moindre denier de l'État, qui prêche les sacrifices aux travailleurs. Hein, et puis qui finalement ne se les applique pas à lui-même parce que bon, quand même, c'est des sommes qui sont très importantes, 800 000 euros, 80 000 pour ses deux enfants. Enfin bon, dans n'importe quelle famille ouvrière, si vous voulez, quand on a un enfant qui cherche un petit job, d'abord, premièrement, il galère. Ensuite, il ne trouve que des petits jobs. C'est quoi? C'est le travail sur chaîne, c'est le travail dans les restaurants rapides. Et puis c'est au maximum 1 000 euros par mois en faisant des heures et des heures. Donc, si vous voulez, ce décalage-là. Et puis, enfin, je sais pas, moi, on a l'impression qu'il ne se rend même pas compte d'ailleurs de ce décalage. Et moi, je trouve que c'est révélateur en fait d'un monde bourgeois où finalement on considère que tout nous est dû, hein, que voilà, on est riche, on peut comme ça gagner des sous facilement, et puis on est tellement compétent, tellement talentueux, que tout ça c'est normal, hein, parce qu'au bout du compte, vous savez, les plus riches, cette classe capitaliste, elle raisonne exactement de la même façon, hein. Sans rien faire de ses 10 doigts, elle profite du travail de milliers de salariés, ça, c'est finalement les mêmes mécanismes.
Robert Damias.
Mais au fond, qu'est-ce que vous préférez, que ce soit une candidature de droite affaiblie? Ou est-ce que vous auriez souhaité que, au nom d'une morale, peut-être, de votre morale, il se retire purement et simplement?
Ah non, mais ça, c'est l'affaire de la droite.
Non, mais d'accord, mais par contre, avoir un candidat de droite affaibli, est-ce qu'il est affaibli, à votre avis, d'abord? Est-ce qu'il est durablement affaibli?
Écoutez, on verra bien dans son électorat déjà de droite, hein, son propre électorat. Est-ce qu'il va réussir à ressouder la ferveur, enfin, qui a pu y avoir pour la primaire? Je n'en sais rien. Manifestement, il a réussi à le faire au niveau de son camp, de son parti, hein, mais l'électorat de droite, je n'en sais rien. En tout cas, je peux vous dire que du point de vue des travailleurs, des chômeurs, des classes populaires, tous les retours que moi j'ai de ce qui se discute dans les entreprises, c'est que
on en parle beaucoup.
On en rit beaucoup. Voilà, parce qu'y compris à chaque fois qu'il s'excuse, à chaque fois qu'il s'explique, finalement il s'enfonce. Il s'enfonce parce que justement il considère ça tellement naturel, alors qu'on a tous en tête, y compris les interventions de François Fillon, quand il explique qu'il faut aller contrôler les chômeurs parce que sans doute que ce sont des tricheurs, sans doute qu'ils ne cherchent pas suffisamment du travail. On se souvient de comment ils pouvaient traiter, y compris des gens qui se sont retrouvés licenciés, qui sont au RSA. Parfois, souvent, il les a accusés d'être des assistés. Donc, si vous voulez, tout ça, on l'a en tête. Et puis, voilà, ce genre de comportement où on a l'impression qu'effectivement, il invite au festin, voilà, les enfants, la femme, et puis on se sert. Donc, effectivement, je peux vous dire que ça en rit pas mal, effectivement, dans les usines.
Olivier Samin.
Alors, hier, il a présenté ses excuses. Est-ce que la parenthèse est refermée? La parenthèse Fillon, la parenthèse Pénélope est refermée?
Elle est refermée pour ceux qui ont besoin qu'elle se referme. Voilà, on voit bien effectivement qu'y compris à droite, dans le parti des Républicains, ils n'ont pas d'autres candidats, hein, et qu'ils sont coincés quelque part. Donc voilà, ils sont prêts à mettre tout ça sous le tapis et faire comme si de rien ne s'était produit.
Alors, hier soir, dans ses explications, il a voulu faire un acte de transparence, dire quels étaient l'ensemble de ses revenus, et il a précisé que sa société de consultants, 2F Conseil, avait eu comme client le groupe AXA. Et aussitôt, on a eu un certain nombre de réactions, notamment sur Europe 1, dès hier soir, Florian Philippot pour le Front National, qui jugeait ça scandaleux, Yannick Jadot, candidat écologiste, ce matin sur notre antenne, la même chose. Est-ce que vous aussi, vous êtes choqué qu'un candidat à la présidentielle ait pu avoir eu comme client ces derniers mois et ces dernières années le groupe AXA?
Choqué, mais... Moi, je... comment dire, je m'attends à rien d'autre. Je sais très bien que ça se passe comme ça, hein, qu'il y a effectivement des intérêts qui s'entrecroisent, que ces dirigeants politiques, les grands dirigeants, la bourgeoisie, hein, ils vivent dans le même monde, ils sont apparentés, ils ont des liens familiaux, ce sont des amis, ils partagent des fois même leur carrière, une partie de leur carrière ensemble, dans les mêmes entreprises. Donc tout ça, pour moi, c'est un seul et même monde. Mais justement, moi, j'ai envie de dire, à propos de cette affaire, qu'il ne faut pas seulement pointer du doigt la classe politique. Encore une fois, c'est l'ensemble du monde bourgeois, voilà, qui considère que bah, les riches, en gros, c'est fait pour faire de l'argent, hein, et puis les travailleurs, c'est fait pour travailler, être exploités et se taire. Voilà, c'est comme ça que l'ensemble de cette société capitaliste, elle fonctionne, hein, au-delà de la classe politique. Moi, je veux dénoncer effectivement tout un monde bourgeois.
Mais, au fond, la défense hier de Fillon, et depuis un certain temps déjà, c'est de dire tout le monde le faisait. Peut-être une erreur.
C'est possible.
On s'est aperçu finalement assez récemment que ça n'était pas moral, mais à l'époque, tout le monde le faisait. D'ailleurs, ça continue. Les attachés parlementaires, ça continue toujours. Et donc, tout le monde l'a fait. Qu'est-ce que, à votre avis, il faudrait faire pour que ça change? D'abord, en matière de transparence. Est-ce que vous pensez qu'on est au bout de la transparence politique? Est-ce qu'il y a d'autres mesures à prendre? De quelle nature? Et pour éviter que tout le monde le fasse.
Alors d'abord, je tiens à dire que Lutte Ouvrière, nous n'avons pas eu beaucoup d'élus, mais quand même, Arlette Laguiller a été, par exemple, élue au Parlement européen.
Et quand elle avait des attachés parlementaires.
Et elle avait des attachés parlementaires, oui, bien sûr, mais quand elle était élue, elle reversait son indemnité au parti, hein, et y compris moi, j'ai été conseillère municipale avec une fonction de déléguée à la jeunesse, je touchais 110 euros par mois, je le reversais à mon parti, parce que nous avons toujours considéré qu'être élu ne devait pas nous apporter quelque avantage que ce soit. Voilà, c'était tout simplement des responsabilités que l'on prenait, des engagements qu'on avait pris, hein, de faire entendre d'ailleurs dans toutes ces assemblées la voix des classes populaires, les intérêts des classes populaires, et jamais, jamais pour nous, cela a été la recherche d'enrichissement personnel. Donc ça, c'est une vieille tradition d'ailleurs du mouvement ouvrier, de reverser les indemnités effectivement à son parti, de ne pas s'enrichir personnellement. Donc vous dites, tout le monde le faisait, et bien écoutez, pas les élus de Lutte Ouvrière, qui avait justement ces principes...
Mais sur la transparence proprement dite.
Bien, moi, je suis évidemment pour la transparence.
D'accord, mais ça veut dire quoi, très concrètement? Vous pensez que les lois actuelles sont insuffisantes, qu'il en faut encore d'autres?
Est-ce que, par exemple, vous allez vous présenter votre patrimoine, dire les comptes, les comptes d'épargne que
je
vous avez?
Je peux même vous le faire ce soir, si vous voulez. Et si vous voulez, je n'ai même pas besoin de convoquer mes divers conseillers fiscalistes, parce que...
Est-ce que vous êtes propriétaire de votre logement?
Je suis propriétaire par moitié d'un logement qui fait 48 mètres carrés en Seine-Saint-Denis, et qui doit avoir, donc je dois être propriétaire de 100 000 euros à peu près. Hein. Et puis j'ai effectivement une C3 qui a 10 ans. Voilà.
Et vous avez des comptes d'épargne?
Oh oui, j'ai un livret A. J'ai un livret A sur lequel je dépasse péniblement 8 000 euros. Donc,
et pas de compte titre, pas d'action,
pas loin.
Ni d'obligation.
Sûrement pas. Sûrement pas. Et juste pour répondre à votre question de la transparence, moi je pense que cette transparence et ce contrôle ne peut pas être fait par en haut, par des institutions, par un organisme, sûrement pas d'ailleurs par les députés entre eux. Hein, sûrement pas par la classe politique, voilà, en cercle fermé. Non, il faudrait effectivement que ça soit largement public, y compris que les journalistes puissent facilement avoir accès à toutes ces informations, parce qu'il n'y a que ce contrôle-là qui peut être efficace.
Alors, une dernière question sur l'affaire Fillon qui est posée sur Twitter, Victor Dolan.
Oui, l'affaire Fillon est-elle faite finalement pour éviter de parler des vrais sujets, se demande Lilian sur Twitter. De parler des vrais sujets.
Oh, bah, l'affaire Fillon, elle est tombée comme ça, un peu malgré lui. Enfin bon, personne n'a choisi. Mais en même temps, à partir du moment... Vous savez, on nous explique que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre une personne, hein, une personnalité, un candidat et le peuple. Hein. Donc c'est tout à fait normal quand même que lorsque on est candidat à la présidentielle, on ait un certain nombre de comptes à rendre. Et moi j'étais frappée, y compris par son argumentation, de dire mais enfin comment cela se fait-il? On me demande maintenant on me demande des comptes. Mais quand on est un salarié, quand on est un jeune qui cherche un boulot, je peux vous dire que on est ausculté sous toutes les coutures. Il faut en donner des comptes, y compris quand on est au chômage, y compris quand on est en arrêt maladie. vie, y compris quand on a parfois une maladie grave. On est contrôlé en permanence. Quand on est travailleur, on est contrôlé en permanence. Alors quand on est candidat à la présidence de la République, qui en plus se veut exemplaire et irréprochable, bah, c'est la moindre des choses que de se soumettre à ce contrôle.
Très rapide, Robert Namias. Vous qui regardez la presse et les médias, qui sans doute devez penser de temps en temps que vous n'êtes pas vraiment invité, vous l'êtes ce soir.
Quasiment jamais même.
Oui, ben voilà, mais vous l'êtes ce soir.
Je vous remercie.
Est-ce que vous pensez, un, qu'il y a eu, comme le dit Fillon, acharnement médiatique, vous qui regardez tout ça, d'un peu loin, et deux, est-ce qu'il y a eu éventuellement, ce qui est autre chose, complot politique ?
Nathalie Arthaud.
Voilà, c'est une façon de se défendre, voilà, il contre-attaque, bon, acharnement médiatique, mais moi j'ai en tête, vous savez, moi j'ai fait toutes les mobilisations contre la loi El Khomri. Hein, j'ai vu comment, effectivement, là, il y avait des formations. Parce qu'il y avait des dizaines, des centaines de milliers de gens dans la rue, et qu'est-ce qu'on nous montrait? C'était quelques dizaines, quelques centaines de jeunes ou de moins jeunes qui, en avant de la manifestation...
On n'a pas sous-estimé cassées, les manifestations, etc. Massives.
Et je peux vous dire que, voilà, ça a été des déformations à n'en plus finir. Et oui, il y a parfois des emballements, parfois la presse cherche un certain nombre de choses. Bon, d'accord, mais... Bon là, franchement, voilà, moi je ne vais pas le plaindre, hein, je vais pas le plaindre. Il faut qu'il assume, c'est y compris lui, hein, lui qui s'est quand même présenté, positionné comme cela. Il est pris à son propre piège en réalité, c'est ça qui se passe.
Nathalie Arthaud, candidate lutte ouvrière à la présidentielle, avant d'en venir à votre programme et à toutes les questions économiques, notamment avec Olivier Sarmin. Toujours dans l'actualité, ces jours-ci, les événements de d'Aulnay-sous-Bois où 4 policiers ont donc été mis en examen, dont un pour viol après l'arrestation très très musclé d'un jeune jeudi dernier. On craint des émeutes, il y a eu des incidents la nuit dernière. Vous vivez en Seine-Saint-Denis, vous connaissez cette région, Aulnay-sous-Bois, ces quartiers difficiles. Quel regard vous portez sur ces violences policières?
Mais c'est effectivement très grave, c'est très très grave, parce que cette arrestation musclée est assez significative, hein. On a voulu effectivement blesser, humilier, enfin les policiers qui sont intervenus, hein, ont voulu effectivement blesser, humilier, rabaisser. C'est ce qui se passe fréquemment, vous savez, quand ces jeunes se plaignent, hein, d'être contrôlés 6 fois, 7 fois par jour au pied de leur immeuble, c'est une réalité. Hein, c'est une réalité qui est insupportable en réalité pour beaucoup. Et quand en plus ce genre d'arrestation se passe comme ça, bah oui, bien sûr que ça fait peur. Ça fait peur. Moi, j'ai entendu une mère témoigner en disant « j'ai peur quand mes enfants sont dehors ». Hein, et alors tout ça, c'est le résultat de quoi? C'est le résultat, bon, bah à la fois du fait que finalement dans ces quartiers-là, au niveau de la présence de l'État, il reste plus que bon l'école, hein, et puis la police, mais la police qui intervient justement, hein, force de répression, de punition, etc. Et les jeunes, beaucoup de ces jeunes, eh bien en fait on les cantonne, on les marginalise au chômage, dans des petits boulots, rien ne leur est proposé, il n'y a pas de projet, hein, pour eux de s'intégrer à la société. Le chômage est massif, puisque c'est un jeune sur quatre qui se retrouve au chômage dans la plupart de ces cités. Donc voilà, c'est vraiment une situation qui est très grave, et je crois que ce sont les gouvernements successifs, hein, qui au bout du compte sont responsables de
Olivier
cette situation-là.
Est-ce que c'est la seule image que vous avez de la police? Est-ce que vous n'avez pas aussi de la police l'image de la police qui nous protège, qui est dans tous les lieux sensibles pour éviter les attentats, etc.?
Mais il y a aussi ça. Bien sûr qu'il y a aussi ce rôle-là, c'est vrai, mais en même temps, on voit là que c'est plus complexe que ça, que c'est plus compliqué que ça, et qu'y compris dans les forces de police, il y a aussi effectivement du racisme. Alors des fois du racisme anti-jeune, des fois du racisme tout court, et que toutes les relations dans la société sont en train de se tendre, de devenir de plus en plus violentes, du simple fait que la misère, les inégalités, les frustrations, la marginalisation ne font que s'aggraver. Voilà.
Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle pour le mouvement Lutte Ouvrière, est l'invitée du Club de la Presse dans le bus Europe 1 de la présidentielle. Nous sommes à 3 dans l'aube et on revient juste après une courte pause.
Et vous nous retrouvez en direct et en vidéo sur Facebook Live.
Le Club de la Presse d'Europe 1.
Depuis le bus Europe 1 de la présidentielle.
Jusqu'à 20h, le club de la presse depuis le bus européen de la présidentielle stationné à Troyes. On vous retrouve, Nicolas Poincaré, avec à vos côtés Robert Namias et Olivier Samin. Vous recevez la porte-parole de Lutte Ouvrière, candidate à l'élection présidentielle, Nathalie Arthaud.
Oui, Ombline, dans le bus européen qui commence un grand tour de France qui nous amènera dans une quarantaine de villes à la rencontre des Français pendant la présidentielle et qui nous amènera à interroger tous les candidats à la présidentielle. Et on commence donc ce soir avec Nathalie Arthaud, candidate de Lutte Ouvrière, travailleuse, travailleur. C'est comme ça qu'Arlette Laguiller commençait tous ses discours et que Nathalie Arthaud commence aussi les siens. Et justement, Victor Delande, on a demandé à nos auditeurs depuis hier soir sur Europe1.fr, est-ce que les ouvriers ne sont pas les oubliés de ce début de campagne présidentielle.
Oui, et le résultat est assez net, Nicolas, pour 66% des votants. Oui, les ouvriers sont bien les oubliés de cette élection présidentielle. On ne parle que des casseroles de Fillon, du vide de Macron, s'énerve Mickaël sur la page Facebook d'Europe 1. On ne parle jamais des ouvriers, encore moins des retraités, abonde Anne. Ils ne sont pas oubliés, préfère ironiser en revanche François. Ils vont travailler plus pour gagner moins. Pour résumer, Isabelle vous pose cette question, Madame Arthaud. Comment faire en sorte de mettre les ouvriers sur le devant de la scène?
Ah ben moi c'est très clair hein. Je me présente pour faire entendre les intérêts des travailleurs, justement les intérêts des ouvriers, des salariés, des employés, des chômeurs j'appelle dans cette élection les travailleurs à dénoncer l'augmentation du temps de travail, dénoncer l'aggravation des cadences, dénoncer les bas salaires, dénoncer l'exploitation, dénoncer finalement cette classe capitaliste qui est en train effectivement d'accaparer le fruit du travail de nous tous hein, l'ensemble de la classe ouvrière. Donc c'est exactement le sens de mon vote et je les appelle à dire ces intérêts là qui se traduisent, à mon avis, dans le fait de combattre le chômage, de revendiquer des augmentations de salaire, à commencer par, évidemment, une augmentation du SMIC, et de revendiquer le contrôle sur l'argent qu'il y a dans les entreprises, eh bien, il faut non seulement le mettre en avant, mais être conscient qu'il faudra les arracher au travers de luttes collectives puissantes. Donc, c'est tout le sens de ma campagne dans cette élection.
Olivier Samin.
Alors, est-ce que les travailleurs dont vous parlez, ce sont uniquement les salariés, les fonctionnaires et les chômeurs? Est-ce que ce ne sont pas aussi les chauffeurs d'Uber, les auto-entrepreneurs ou par exemple les jeunes qui se lancent et qui créent une start-up?
Alors, il y a des différences entre les jeunes qui créent des start-up et celui qui achète une voiture pour travailler pour Uber. Parce qu'en général, ceux qui se lancent dans des start-up, ils ont accès déjà au capital et souvent, ils ont beaucoup d'aides de l'État.
Donc, alors on s'en occupe pas.
Alors, disons que c'est pas tout. Je fais des différences dans la situation, dans les situations. En général, ceux-ci sont aidés déjà, mais par contre, effectivement, les taxis, les chauffeurs de VTC, mais aussi les agriculteurs, mais aussi beaucoup d'artisans, beaucoup de commerçants qui travaillent, qui travaillent et qui vivent, qui ne vivent que de leur travail. Bien sûr que je les range dans le camp des travailleurs et bien sûr que eux aussi d'ailleurs ils sont exploités, vous savez, par les plus gros, parce que souvent en fait ils dépendent. Alors pour Uber c'est clair, hein, ils dépendent d'une plateforme qui parasite leur travail, mais aussi pour bien des commerçants, bien des petites entreprises qui sont qui interviennent parce qu'ils travaillent dans la maintenance ou dans le service informatique pour des grandes entreprises et où on leur fait des contrats léonins où ils sont obligés effectivement de se mettre en quatre pour tenir les prix. Donc eux aussi effectivement subissent la loi du plus fort et bien sûr qu'ils font partie du camp des travailleurs que moi je veux porter dans cette élection.
Nathalie Arthaud, une question de Robert Namias.
Alors les travailleurs et les travailleuses, parlons-en, ils étaient quand même plus de 5% à deux reprises avec Arlette Laguiller à s'être porté sur Lutte Ouvrière aux deux présidentielles de 95 et de 2002. La dernière fois, vous avez fait, je crois, 0,6 ou moins d'un pour cent, en tous les cas, largement moins d'un pour cent. Et parallèlement, on voit que même les grands partis de gauche, le PS, même Mélenchon et les autres, ont vu fuiter depuis des années vers le Front National une très forte proportion des électeurs des classes les plus populaires et donc, par définition, aussi des travailleurs et des travailleuses, de certains en tous les cas et de certaines. Comment vous expliquez ça? Est-ce que c'est votre discours qui est complètement déconnecté de ce qu'ils vivent eux-mêmes alors vous prétendez parler en leur nom tous les jours?
Alors je ne crois pas d'ailleurs que ce soit tellement l'électorat de Lutte ouvrière qui soit parti du côté du Front national, mais je pense que
il est parti tout court. Entre 5% et plus de Arlette Laguiller et vos 0,6,
il est parti. Vous savez, y compris en 95 quand nous avions dépassé les 5%, nous avions dit que parmi ces électeurs, beaucoup avaient utilisé le vote d'Arlette Laguiller pour protester. Et que finalement, ceux qui étaient sur nos bases, hein, sur nos convictions profondes, n'étaient pas, voilà, ce n'était pas 1 700 000 électeurs. Donc on a toujours été assez conscient quand même de ce que l'on représentait. Et on représente effectivement un courant qui est minoritaire. Mais moi, je veux pas tellement faire d'analyse sur le Front National, parce que je crois que c'est plus le moment. Ça, c'est votre boulot de faire les analyses et les commentaires. Mais en tout cas, j'ai envie de m'adresser aux électeurs populaires qui effectivement lorgnent vers Le Pen, et j'ai envie de leur dire ça, c'est un piège, vous tombez dans un piège, vous avez cru dans Mitterrand, vous en avez été déçus, hein, et aujourd'hui vous recommencez. Ouais,
Mitterrand
avec,
et le Front National, c'est pas tout à fait la même chose.
Mais cet électorat, vous l'avez souligné tout à l'heure, que il y a aussi une fraction qui vient de la gauche. Il y a aussi une fraction
très large. Pas ah bah voilà, de la gauche ouvrière.
Donc vous en convenez. Donc vous voyez, ils viennent. Et justement, c'est le fruit. Alors je voulais pas faire d'analyse, mais vous m'y obligez. Bon, mais c'est le fruit de l'écœurement, c'est le fruit des trahisons successives, c'est le fruit effectivement de cette politique qui a été menée au gouvernement par Mitterrand, par Jospin, par Hollande, et qui à chaque fois
a trahi, c'est plutôt un transfert mécanique des voix du Parti communiste, notamment dans le Midi de la France, vers le Front national.
Alors je continue là, en tout cas dans cette élection. Je peux vous dire que je le combats. Et ceux qui croient pouvoir se dire, ah bah peut-être qu'elle gouvernerait autrement parce qu'on ne l'a jamais vue au pouvoir, je tiens à leur dire, non, elle est comme les autres. Jamais vous ne l'entendez dénoncer cette classe capitaliste, les plus riches, ceux qui sont responsables du chômage de masse, des bas salaires. Jamais, jamais. Hein, elle est en réalité exactement comme les autres, mais avec cet aspect encore peut-être pire, c'est que elle oppose les travailleurs les uns aux autres. En réalité, elle prône la guerre entre les pauvres, entre les travailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment, enfin, qui c'est la politique d'ailleurs du patronat, puisque le patronat, tout ce qu'il cherche à faire, c'est diviser les travailleurs, diviser pour mieux régner. Alors effectivement, quand on va chercher à accuser son voisin de palier ou son copain d'atelier ou celui qui fait la queue à Pôle emploi, etc., on se trompe. Et moi, c'est vrai que je suis je n'aurais de cesse de dénoncer ça, parce que finalement, quand j'entends Marine Le Pen s'indigner de ce qu'on donne 11 euros à un demandeur d'asile, bon, mais c'est significatif. Elle s'indigne de ça, mais pas qu'un Carlos Ghosn, qui est PDG de Renault Nissan, gagne 45 000 euros par jour. Pas que Madame Bettencourt, avec toute sa fortune, elle empoche 1 million par jour. Hein, c'est dividende, c'est 1 million par jour. Ça, Marine Le Pen, elle le dénoncera jamais. Pourquoi? Bah parce que justement, elle défend ce système-là. Donc les travailleurs qui regardent dans cette direction se trompent, ils tendent le bâton pour se faire battre.
Olivier Samin.
Nathalie Arthaud, on célèbre aujourd'hui les 25 ans du traité de Maastricht. Dans une interview au Parisien ce matin, le numéro 2 de la Banque Centrale Européenne, Benoît Cœuré, dit que l'euro a protégé les plus modestes en contenant l'inflation, qui est une taxe sur les pauvres. Vous qui êtes prof d'économie, comment vous analysez cette affirmation? Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette affirmation?
Non, pas du tout, parce que, vous savez, ça ne peut pas être une monnaie, ça ne peut pas être une constitution qui peut protéger les travailleurs, ça c'est pas vrai.
Il faut sortir de l'euro.
Ça c'est pas vrai. Mais justement, tous ces débats-là, pour moi, ce sont des diversions. Parce que vous savez, payer en euros ou en francs, de toute façon, les ouvriers, ils sont mal payés. Et ils étaient mal payés en francs et ils continuent d'être mal payés en euros. Et
mais je pense que si ils ont de l'inflation, ils sont encore plus
dans une situation difficile. Mais quand il n'y a pas l'inflation, de toute façon, c'est le contraire. Enfin bon, de toute façon, l'inflation, c'est pas non plus. Je sais bien qu'il y a tout un débat là-dessus, mais tout le problème, c'est justement que les travailleurs, ils revendiquent l'accès aux richesses qu'ils créent eux-mêmes. Voilà. En groupe capitaliste qui possède les capitaux et qui accapare tous les profits.
Et ça passe par exemple par un SMIC à 1800 euros, c'est ce que vous proposez?
Bah oui, bien sûr, un SMIC à 1800 euros net, voilà, parce qu'on a fait nos comptes. Vous voyez, on est comme Fillon, mais ils sont plus faciles à faire.
Et pourquoi pas un revenu universel comme le propose Benoît Hamon?
Bah parce que les salariés, les chômeurs, ils veulent un travail. Parce qu'un travail, c'est non seulement un salaire, mais c'est aussi de la dignité.
Sinon, ils sont plus travailleurs.
Ah mais vous savez que moi quand je parle de travailleurs, j'inclus bien sûr ceux qui sont au chômage. Parce que ceux qui sont au chômage, d'abord ils le sont une période et ils retravaillent après. En réalité, maintenant vous savez, on passe de l'un à l'autre très 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 vite. Et puis surtout parce que c'est pas un statut, c'est une situation dans laquelle le grand patronat plonge une fraction des travailleurs. Pour moi, ils font partie intégrante du monde du travail.
Mais Linette Benoît Hamon, qu'il y aurait à l'avenir de moins en moins de travail, notamment à cause de la numérisation, et qu'il faut donc bien commencer à réfléchir à un avenir lointain où tout le monde toucherait un revenu universel. C'est une idée absurde.
Dites donc, en tout cas, 750 euros, je peux vous dire que ça fait rêver personne. Et puis surtout, l'idée qu'il y ait de moins en moins de travail. En quoi cela veut dire que il y aura moins en moins d'emplois? Même s'il y a moins de travail, pourquoi ne pas se le partager? Pourquoi ne pas se le répartir? Je sais pas, moi, dans une société normalement constituée, ça devrait être une évidence. On se répartit les tâches, on se répartit le travail entre tous.
Faut réduire le temps de travail.
Il faut bien sûr réduire le temps de travail. Il faut le réduire jusqu'à ce qu'il reste un chômeur, une femme ou un homme au chômage. Donc il faut le réduire.
Donc vous ne dites pas 32 heures, vous dites
peut-être moins. Moi, je dis pas un chômeur. Il faut éradiquer le chômage. Un emploi, c'est un droit. Ça doit être un droit imprescriptible pour tous, y compris pour ceux qui ont des handicaps, pour ceux qui sont invalides parce qu'ils ont perdu la santé en s'usant au travail. Ils doivent pouvoir être intégrés effectivement une activité productive. Vous savez, cette dignité là du travail, c'est quelque chose d'important, parce que vous avez discuté avec des ouvriers aujourd'hui, eh bien ils sont fiers de ce qu'ils font, ils sont fiers de leur travail, et ça c'est partagé, c'est général. Finalement, il y a que chez les riches qu'on est fier de gagner beaucoup d'argent sans rien faire. Mais du côté du monde du travail, non, on veut effectivement. Donc c'est la dignité. Moi je crois que oui, il faudrait répartir le travail entre tous de sorte que tout le monde ait un salaire correct à 1800 euros minimum par mois. C'est une question évidemment de combat, hein. Je ne le cache pas, parce que ça veut dire effectivement aller prendre sur les profits qui aujourd'hui partent dans les poches d'une minorité. Tous les chiffres qui tombent, toutes les statistiques qui tombent l'attestent. Parce que quand on voit qu'il y a 500 grandes fortunes qui aujourd'hui possèdent 460 milliards en France, que 21 personnes possèdent l'équivalent de ce que possèdent 25 millions de pauvres, on a vraiment ça, une aspiration des richesses à un pôle.
Robert Damiens.
Finalement, prendre cet argent, ça se fait par quel biais? De l'impôt, bien évidemment, mais de l'impôt uniquement sur les grandes fortunes, de l'impôt sur le revenu de chacun. Vous l'imaginez comment, cette ponction qui permettrait de répartir les richesses différemment?
D'abord, moi je l'imagine surtout de façon imposée par un rapport de force. Après, la forme que cela prendra, on peut en discuter, mais c'est pas le plus important. De toute façon, ça, ce sera arraché. Hein, je suis pas naïve, je sais très bien que ceux qui aujourd'hui ont tous ces positions-là, tout ce pouvoir qui provient de leur argent, hein, ils résisteront, ils s'opposeront à tout cela. Donc ce sera une question effectivement de rapport de force, de lutte collective. Vous savez, même dans les années en 36, il a fallu plusieurs semaines de grève pour arracher les congés payés, pour arracher des augmentations de salaire. Donc bien sûr que c'est une question de combat, ça moi je ne le cache pas. Alors, et dans cette élection, je suis la seule à dire d'ailleurs, dans cette campagne, dans cette élection, exprimez-vous, mais ne croyez pas que ce sera votre bulletin de vote qui va changer votre sort. Exprimez-vous pour un programme, pour un combat qu'il y a à mener. Voilà ce que je propose, moi, à ceux qui partagent mes idées.
Je voudrais revenir sur la question de l'euro et de la mondialisation très rapidement. Vous êtes en effet économiste, mais vous dites vouloir lutter contre le grand capital et contre les multinationales et les grandes entreprises capitalistes. Ce sont vos termes. Bien. Elles sont très souvent multinationales, donc internationales. Donc, comment vous inscrivez dans la mondialisation, dans une lutte à couteau tiré permanente, mais est-ce que dans ce cas ça passe par une monnaie nationale et pas un euro, ou est-ce que, au contraire, paradoxalement, la lutte contre la mondialisation et contre les multinationales passe par une monnaie forte qui est une monnaie européenne, qui permet une entité européenne qui peut lutter contre la mondialisation?
Nathalie Arthaud.
Non, je pense que ça passe surtout par le fait que les travailleurs reprennent le pouvoir sur ce qu'ils font, ce qu'ils produisent. C'est-à-dire reprennent le pouvoir sur les entreprises. Ça passe d'abord et avant tout par ça. Et en particulier, ça passe déjà hein, parce que par le contrôle de l'argent qu'il y a dans ces entreprises.
Elles sont dans un monde économique qu'il faut quand même définir. Vous l'imaginez comment?
Oui, mais justement, vous parlez, vous imaginez une situation.
Je vois bien ce que vous pouvez faire dans les entreprises,
mais ça commence par là. D'accord. Ça commence par là.
Mais après, ça s'inscrit dans un cadre de mondialisation actuellement.
Mais moi, je suis convaincue que les travailleurs qui auraient accès à l'argent qu'il y a dans les entreprises, ils pourraient imposer qu'il y ait d'autres choix, justement, mis en œuvre dans ces grandes multinationales. Je sais pas, moi, Sanofi, Peugeot, Citroën, Renault, mais même les banques qui font des milliards de bénéfices en ce moment et qui continuent de supprimer des emplois. Eh bien, les travailleurs, s'ils avaient accès effectivement à tous ces comptes-là, eh bien, je pense qu'ils se sentiraient légitimes à dire, ça suffit avec ces licenciements, nous, il y a besoin d'embaucher, moi, mes enfants, ils sont au chômage, mes voisins, etc., le quartier, tout part à volo, il faut créer des emplois, il faut augmenter les salaires, et moi, je pense que les travailleurs, ils peuvent reconstruire en partant de là, la société et l'économie. Alors, ça bouleverserait bien des choses, sans doute que si les travailleurs prenaient conscience de leur force et de leur capacité à reprendre la maîtrise de tous ces instruments de production, on transformerait bien des choses, on changerait peut-être de monnaie, on s'adresserait surtout au peuple des autres pays, hein, et beaucoup de choses en seraient bouleversées.
Nathalie Arthaud, nous sommes dans le bus Europe 1 à 3 pour cette grande tournée qu'Europe 1 va faire pendant la présidentielle. On marque une pause et on revient avec vous, candidate lutte ouvrière à la présidentielle, et avec des questions que les habitants de 3 sont venus vous poser dans ce bus depuis ce matin. À tout de suite.
Et je vous rappelle que vous nous écoutez, vous nous suivez en vidéo sur Facebook Live.
D'Europe 1. Depuis le bus Europe 1 de la présidentielle.
Et c'est jusqu'à 20h avec vous, Nicolas Poincaré.
Le club de la presse suite et fin depuis le bus Europe 1 de la présidentielle garé devant les Halles, c'est-à-dire dans le centre de la ville de Troyes, dans l'Aube, avec Nathalie Arthaud qui donne sa première grande interview de cette nouvelle campagne présidentielle. Et nous, c'est notre première invitée de cette campagne présidentielle. On espère recevoir dans ce bus, d'ici le mois d'avril, eh bien, tous ceux qui seront candidats et qui ont obtenu leurs 500 signatures. On a maintenant des questions à vous poser, Nathalie Arthaud, qui ont été posées par des habitants de Troyes ou bien le week-end dernier de Lyon, puisque ce bus était à Lyon le week-end dernier, et qui vous interpellent. Je vais vous les poser dans un instant, mais d'abord un mot sur lutte ouvrière, pour qu'on sache bien, parce que on vous voit, avant c'était, on l'a dit tout à l'heure, Arlette Laguiller qui débarquait tous les 5 ans ou tous les 7 ans.
Ah non, ne dites pas ça.
Et puis maintenant c'est vous depuis 2 ans, et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe entre deux présidentielles? C'est quoi lutte ouvrière? C'est combien de divisions? Qu'est-ce que vous faites entre deux présidentielles, Nathalie Arthaud?
Non mais c'est fou que vous me posiez cette question-là. C'est complètement dingue. Parce que nous faisons un tas de choses, y compris nous sollicitons les médias, parce que nous avons beaucoup de choses à dire en général sur l'actualité en permanence, et les médias nous ignorent superbement. Nous avons participé à toutes les mobilisations contre la loi El Khomri, j'ai pris la parole à maintes reprises. Nous avons participé à la dernière campagne municipale, nous avions 9000 candidats. Présent, et nous sommes absolument de tous les combats. Nous organisons une fête chaque année, il y a 30 000 visiteurs à notre fête. Voilà, nous sommes au courant, nous sommes présents dans les entreprises avec une presse d'entreprise, nous militons tous les jours. Alors je suis consternée qu'on me pose la question alors que les journalistes nous ignorent superbement, parce que je pense qu'au fond quand même, ce que pensent les ouvriers, ce qui se passe dans le monde du travail, ils s'en intéressent quand même pas tellement. Au bout du compte, je crois qu'il y a quand même un peu de ça.
Alors, question idiote qui vous a permis de faire une très bonne réponse et d'expliquer que vous existez entre les présidentielles. Question idiote de journaliste.
Puis,
alors, on passe maintenant aux questions des auditeurs.
Je peux vous dire que les travailleurs, dans les hôpitaux, dans les grandes villes, le savent. Parce que justement, d'abord, ils voient, on est dedans, parce qu'on est, on y travaille, hein, parce qu'on est salarié, etc. Et parce qu'encore une fois, on est quasiment le seul parti politique à distribuer régulièrement, c'est-à-dire tous les 15 jours, une presse d'entreprise dans 300 grandes entreprises du pays. Donc je peux dire que les travailleurs, ils nous connaissent.
Mais ce qui est formidable, c'est que vous avez toujours vos signatures. D'ailleurs, comment vous faites? Parce que on entend Dupont-Aignan se plaint. Il dit qu'il les aura. Mais bon, même Mélenchon a fait longtemps un numéro en disant c'est difficile. Et alors vous, apparemment, avant 7 ans, maintenant 5 ans, vous surgissez, vous avez tout de suite vos signatures, mais elles viennent d'où vos signatures? C'est formidable.
C'est à vos yeux que nous surgissons. Encore une fois, nous sommes présents dans
je le fais un peu exprès.
Dans beaucoup de villes, dans toutes les régions, etc. Et effectivement, la recherche des parrainages, c'est un travail qui est militant, qui nécessite d'avoir des camarades sur le terrain, qui sillonnent le pays. Donc, nous, ce travail, il avance bien. Et c'est vrai que je suis confiante, on les a pas encore, hein, mais je suis confiante, même si chaque fois, le gouvernement rajoute des obstacles et des difficultés. Mais fort heureusement, on peut compter sur la fibre, l'attachement au pluralisme des maires des petites communes. Donc nous, c'est là-dessus, évidemment, grâce à eux, que nous pouvons nous présenter.
Alors, comme convenu, les questions que les auditeurs vous ont posées en venant les enregistrer dans ce bus. On commence avec Léna, qui a 19 ans.
Je voudrais savoir comment pensez-vous convaincre des jeunes qui n'ont plus foi en la politique d'aller voter ?
Nathalie Arthaud.
Moi j'ai envie de leur parler, y compris aux jeunes, j'ai envie de leur parler de la société. Voilà, y compris dans cette campagne, de les faire réfléchir à où allons-nous avec ce système, finalement, avec ce système capitaliste, où il n'y en a que pour l'argent, un argent qui domine tout, des intérêts égoïstes comme ça qui sont mis en avant, et puis avec cet argent, donc cette domination d'une minorité qui effectivement aggrave les inégalités, qui aggrave le chômage de masse, mais aussi qui provoque toute une dégradation morale aussi, parce que le capitalisme c'est un recul matériel, mais c'est aussi de plus en plus une décadence morale, parce que ça veut dire aussi l'individualisme, le chacun pour soi, ça veut dire la marginalisation qui conduit aussi à cette délinquance qui existe, à ce fanatisme religieux qui monte, c'est le repli sur soi, c'est le rejet de l'autre, c'est la haine, parce qu'on est, le système capitaliste il est quand même basé sur la concurrence. Et il met sans arrêt les gens en concurrence les uns avec les autres. Et je crois que cette remontée là du racisme, de la xénophobie, du nationalisme, ça participe aussi de tout ce système là. Et à ces jeunes, j'ai envie de dire, eh bien, ça il faut le changer. Et on le changera si on change ce système capitaliste.
Deuxième question qui vous est posée par Mathilde, qui est interne en médecine.
J'aimerais savoir ce que vous pourriez proposer pour améliorer les conditions de travail du personnel soignant dans les hôpitaux.
Nathalie Arthaud.
Des embauches, bien sûr, et y compris justement, tout le monde nous explique qu'il faut se battre contre le chômage, etc., etc. Mais qu'on embauche, voilà, dans les services publics. Moi, je suis enseignante en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, mais pareil, il faut embaucher. Donc, il faut embaucher des aides-soignantes, du personnel dans les hôpitaux, bien sûr. Et vous savez, moi, j'étais quand même frappée par ce pacte de responsabilité. C'est 40 milliards. Alors, j'ai fait mon compte. 40 milliards, ça permet de créer 1 million d'emplois payés à 1 800 € net, donc cotisations comprises. 1 million. Eh bien, moi, je crois que cet argent, il aurait mieux été utilisé ainsi, effectivement, c'est-à-dire dans les hôpitaux, dans les transports collectifs aussi, dans tout ce qui justement est utile à la population et répond véritablement à un besoin. Alors on va me dire, ah oui, mais ça produit pas de profit. Mais justement, moi je défends l'idée que tout ne doit pas produire de profit. Et que la richesse, c'est aussi ça, c'est de répondre aux besoins de l'ensemble de la population.
Troisième question posée par Olivier, qui a 39 ans et qui est fonctionnaire.
J'aimerais connaître votre point de vue sur la sortie du nucléaire. Avec quelle échéance? Sachant que, forcément ça prendra du temps. Mais puis connaître un petit peu vos orientations d'un point de vue écologie. Merci.
Nathalie Arthaud.
Alors sur le nucléaire, moi je crois que le problème n'est pas tellement là aujourd'hui de juger, de condamner une technologie ad vitam aeternam, par exemple le nucléaire. Je crois qu'en fait toutes les technologies là, elles ont leurs limites, leurs avantages, leurs inconvénients. Y compris le nucléaire, il a quand même cet avantage de ne pas aggraver le réchauffement climatique, mais il a évidemment des dangers graves. Et moi je crois que ces dangers, ils sont rendus encore plus aigu, du fait que, y compris dans cette filière du nucléaire, on raisonne rentabilité, économie, profit, exactement comme dans n'importe quel groupe capitaliste, parce que le nucléaire aussi, il est finalement empoisonné par toutes ces nécessités-là. Donc moi, sur le nucléaire, je ne vais pas vous dire ce que je prévois, mais par contre, je pense qu'il y a une mesure immédiate qu'on pourrait faire, une mesure de précaution qu'on pourrait prendre, et aussi pour faire le point réel. Parce qu'aussi le nucléaire, c'est une grosse vache à lait pour le secteur du bâtiment, pour les Bouygues, pour les Vinci, et ça déforme souvent la vision des uns ou des autres. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est sortir cette filière du nucléaire du secteur privé, du marché, et puis que justement, ça soit entièrement un secteur public, on n'y fait pas profit, on cherche pas à faire des économies et on arrête avec, ce recours à des sous-traitants en cascade, les nomades du nucléaire, parce que tout ça, c'est aussi gros de danger.
Une question encore qui vous est posée par Olivier, 48 ans, directeur commercial.
Nous avons un taux de participation qui est de plus en plus faible au moment des élections et surtout présidentielles. Est-ce qu'il ne serait pas envisageable, dans les semaines qui viennent, de prévoir la possibilité de voter par Internet, ce qui donnerait la possibilité à tout un chacun de pouvoir s'exprimer, même s'il ne peut pas se déplacer.
Nathalie Arthaud, le vote par Internet, est-ce que ce serait moderne ?
D'abord, alors sûrement pas imposé à tous, pourquoi pas donner la possibilité à ceux qui ne veulent pas se déplacer de le faire, mais en tout cas que ça soit sûrement pas obligatoire. Vous savez, moi je connais des gens, y compris les jeunes, hein, les jeunes qui ont pas l'argent pour se payer un accès internet chez eux, hein, et un ordinateur, et ça dans plein de familles populaires, il y a pas internet, faut pas croire, hein, sans compter effectivement qu'y compris les plus anciens n'ont pas forcément ne se sont pas mis forcément, donc il faut sûrement pas le généraliser. Hein. Non, je crois que lutter contre l'abstention, c'est justement permettre à toutes les voix de s'exprimer. Et moi, dans cette élection, je porterai effectivement une voix bien singulière, bien particulière, hein, la voix des travailleurs conscients qui marchent pas dans cette duperie électorale, qui sont conscients qu'en réalité on nous fait des promesses, etc., mais qui veulent lever un drapeau, celui des luttes collectives et des intérêts des travailleurs.
Alors voilà pour ces auditeurs qui sont déplacés donc dans ce bus ce matin pour vous poser des questions. Merci à eux. Il nous reste quelques minutes. On a le temps encore d'une question d'Olivier Samin et de Robert Namias. Robert Namias.
Je voudrais revenir sur la question des jeunes et de la politique. Qu'est-ce que vous pensez du dégagisme de Mélenchon qui correspond... Alors lui, il veut dégager tout le monde, au risque d'ailleurs de se faire dégager lui-même. Mais on a bien vu quand même ce qui s'est passé depuis 3 mois, c'est tout à fait exceptionnel. Je ne sais pas si c'est arrivé une fois dans l'histoire politique de ce pays depuis le début du siècle dernier. On a eu Hollande, Sarkozy, Juppé, Duflot, même Valls, et on a failli peut-être avoir Fillon, je n'en sais rien. Bon, enfin bref, on voit bien qu'il y a un changement de génération énorme, considérable. Et on voit bien d'ailleurs que dans les meetings de Macron, dans les meetings de Mélenchon, d'ailleurs, il faut le reconnaître, à Monc, il y a à nouveau des jeunes qui donnent le sentiment de vouloir participer à la vie politique. Est-ce que vous pensez que le retour à la politique des jeunes, de manière générale, passe également par un renouvellement complet de la génération de nos dirigeants ?
Nathalie Arthaud.
Alors ça, je ne sais pas. Moi, je crois plutôt que ça passe par... on veut que ce
vous
soit profond.
Vous êtes relativement jeune, vous, dans ce monde politique.
Oui, mais si on veut que ce soit profond, je crois que ça passera plutôt par des mobilisations. En tout cas, nous avons constaté que les jeunes s'intéressaient à la politique quand effectivement il y avait des manifestations, quand ils prenaient part à la vie politique par en bas avec leurs propres moyens, et y compris des jeunes qui s'interrogent sur la société et qui s'engagent derrière la perspective du communisme. Et ben, je peux vous dire qu'il y en a. En tout cas, nous avons des jeunes effectivement qui ont envie justement de tout changer dans cette société et qui s'engagent en politique sur ce terrain-là.
Olivier Samin.
Alors, j'ai noté que le slogan de votre campagne, c'est « Faire entendre le camp des travailleurs ». C'est une ambition légitime, mais elle me semble assez modeste. Est-ce que le temps n'est pas venu de faire la révolution ?
Moi, je crois que la révolution, ça ne se commande pas. Je pense qu'il faut que les travailleurs mettent en avant leurs intérêts, se battent réellement pour. Hein, et dans ce combat, je pense qu'ils prendront confiance en eux, qu'ils découvriront leur force, leur capacité à reprendre les choses en main, et que là, il y aura des perspectives qui s'ouvriront. Mais là, aujourd'hui, il faut surtout que les travailleurs se sentent légitimes à mettre en avant leurs intérêts. Aujourd'hui, on leur explique qu'il n'y a plus d'argent. C'est fou parce que la société n'a jamais été aussi riche et on ne nous parle que de crise, de déficit et de sacrifice en gros. Et donc les travailleurs ne sentent même plus légitimes pour dire mais nous on veut un travail, on veut un salaire, on veut une retraite, on veut un logement digne, on veut de l'éducation, etc. Donc moi je dis mais bien sûr que si, il faut y aller. Il faut y aller sans avoir peur de ce chantage patronal, sans avoir peur de ce chantage à la compétitivité. Il faut mettre en avant vos revendications. Voilà, c'est une priorité effectivement aux intérêts de la classe ouvrière.
Merci beaucoup Nathalie Arthaud, la candidate de Lutte Ouvrière pour la présidentielle. Première invitée de ce Tour de France que l'on va faire dans le bus Europe 1 la semaine prochaine, c'est Yannick Jadot, le candidat écologique. S'il est encore candidat la semaine prochaine, on verra qui sera dans ce bus, et ce sera à Strasbourg avec Isabelle Millet. Merci à toutes les équipes d'Europe 1 qui se sont déplacées aujourd'hui ici à 3 pour cette édition spéciale du Club de la Presse. Merci à Robert Namias, Olivier Samin et Victor Dolan qui relayaient les questions des auditeurs.